Tempo Classique sur RCN, Dominique Bréda.
Bonsoir à tous, j'ai le plaisir ce soir de recevoir un invité prestigieux qui viendra se produire Salle Poirel ce jeudi 10 juillet dans le cadre des Nancyphonies et nous proposera son spectacle Une leçon de piano avec Chopin. Bonsoir Pascal Amoyel.
Bonsoir Dominique.
Alors merci de nous accorder ce petit moment dans un emploi du temps que je suppose très chargé pendant cette période d'été. C'est la période des festivals, tous les musiciens se délectent et les publics également. Alors, vous avez commencé le piano à l'âge de 10 ans et très vite, le grand maître Georg Sifra s'est intéressé à vous. Vous avez travaillé pendant 8 ans avec lui. Vous êtes donc bien placé pour nous dire quelques mots sur lui.
Oh oui, combien de temps avez-vous?
Ah bah.
J'ai tellement de choses à dire sur lui, c'est sûr que ça a été... Ça, d'abord, ma rencontre avec lui a été due au hasard ou autre, on ne sait pas. J'habitais à l'époque chez mes parents, bien sûr, à 10 ans, et la gardienne de mon immeuble est venue frapper à ma porte en me disant, c'était au 16 rue Ampère, en me disant que Sifra avait habité le même immeuble et qu'il venait de déménager et que c'était peut-être qu'il avait ouvert une fondation pour aider les jeunes musiciens et que c'était peut-être mon destin d'aller le rencontrer. Et donc moi je commençais à peine le piano, je faisais un peu de gamme, enfin d'improvisation comme ça. Et puis ben je connaissais pas son nom et puis je suis allé le voir et c'est grâce à lui que je suis devenu pianiste parce que j'ai découvert non seulement évidemment le pianiste de légende que j'ai appris à connaître, mais aussi un homme d'une gentillesse et d'une générosité pour les jeunes absolument sans pareil qui a accueilli le jeune enfant que j'étais, qui improvisait à peine, alors que lui était le plus grand improvisateur sans doute du XXe siècle. Il fallait vraiment avoir 10-11 ans pour oser jouer ses improvisations à Sifra. Et puis il m'a souri et il avait cette approche très 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 généreuse, très bienveillante. Et vous savez, c'est le genre de maître. J'ai rencontré beaucoup de grands maîtres dans ma vie et j'ai beaucoup appris d'eux. Mais des maîtres comme Sifra, j'en ai jamais rencontré d'autres parce que, au lieu de vous dire, voilà, tout ce qui va pas, etc., c'était quelqu'un qui vous disait au contraire, ah, mais ça, c'est formidable, ça, c'est très bien, ça, c'est très joli, alors que, encore une fois, j'étais pas du tout avancé. Et c'est un petit peu, vous savez, la phrase de, bah, il savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Et, justement, je me disais, bah, si c'est bien, bah, je continue, et puis, tant mieux. Et il vous mettait dans un état de positivité, telle que vous aviez l'impression que vous pouviez franchir les obstacles sans trop de difficultés.
La pédagogie positive.
Voilà. Oui, et l'amour des gens. Vous voyez, ça, je pense que la plus grande particularité, la plus grande qualité d'un pédagogue, c'est d'aimer vraiment ses élèves, de les accompagner pour ce qu'ils sont, et pas pour une pédagogie qu'on considérait comme étant la vérité, et dont on pourrait croire qu'il faut... que les élèves s'y accordent, sans quoi leur destinée est à jamais corrompue, vous voyez. Et ça peut arriver de temps en temps, malheureusement. Et lui, c'était vraiment au fil de l'instant, c'était extrêmement bénéfique pour moi.
Et alors, ces 8 années de travail avec lui, c'était en parallèle avec d'autres études, à l'école normale, par exemple, j'ai vu?
Oui, voilà, j'étais à l'école normale, effectivement, à ce moment-là. Mais enfin, bon, mon père voulait que je fasse médecine, donc je faisais ça. J'étais à l'école, au lycée à plein temps. Et voilà, le jour où j'ai dit à mon père que je voulais devenir saltimbanque, il avait un petit problème d'audition ce jour-là. Il m'a demandé dans quelle fac j'allais m'inscrire. Et puis voilà, c'était comme un accord avec lui. Bon, il était quand même... il est toujours d'ailleurs. Il m'a dit, bon, ben, tente le CNSM de Paris, et le Conservatoire de Paris, puis si tu arrives à rentrer, tu feras musique, puis c'est ce que j'ai fait finalement. Je suis rentré c'était un concours difficile, donc je m'attendais pas à le réussir parce que j'avais fait vraiment j'avais travaillé très peu pour me consacrer surtout aux maths et à physique, mais ça s'est bien passé, voilà.
Bien. Et vous avez continué à jouer pour Sifra après?
Oui, alors j'ai continué à jouer. En fait, j'ai travaillé avec lui à peu près de 84 à 92 à peu près. C'est-à-dire entre, disons, j'ai eu la chance d'être vraiment l'un de ses rares élèves qu'il acceptait chez lui aussi. C'était vraiment extraordinaire pour moi quand je repense à tout ça. Et j'ai été tellement, j'ai eu tellement de gratitude pour lui que j'ai même conçu un spectacle autour de sa vie, qui s'appelle Le pianiste aux 50 doigts, qui est un spectacle qui raconte toute sa vie, mais hallucinante, hein, depuis le petit pianiste de 5 ans jouant dans les bidonvilles de Budapest pour gagner la vie de sa famille, jusqu'aux soldats évadés, jusqu'aux qui vole une locomotive à la Wehrmacht. Enfin, et puis voilà, le pianiste, il devient un pianiste de bar après, qui est tellement fameux que les foules affluent. C'est de là d'ailleurs d'où lui vient le surnom, le pianiste aux 50 doigts, puisque le tenancier du bar, voyant tout le monde venir et voyant comment il joue, dit écrit sur la, met une affiche devant la porte en disant: pourquoi se faire voler ailleurs, tous les pianistes n'ont que 10 doigts, ici se produit le pianiste aux 50 doigts. Et j'ai voulu faire un spectacle sur sa vie, et voilà, je l'ai créé en 2010 à l'occasion de la construction d'un auditorium Xifra au Festival de la Chaise-Dieu. Il était temps d'ailleurs, puisque c'est lui qui avait conçu le festival. Et je n'aurais jamais pensé que 15 ans plus tard, je donnerais toujours ce spectacle.
Je vous propose d'écouter le pianiste aux 50 doigts dans la Campanella de Franz Liszt. C'était la Campanella de Franz Liszt sous les doigts de Georgi Csifra. Alors Pascal Amoyel, vous faites partie de ces musiciens qui parcourent la planète, soit pour jouer, soit pour donner des masterclass, mais vous êtes également professeur de piano au conservatoire à rayonnement régional de Rueil-Malmaison. Qu'est-ce que ça vous procure d'avoir cette double, voire cette triple vie ?
Ouais, la notion de transmission est très importante pour moi. Elle vient peut-être aussi de Csifra. Mmh. La pédagogie, d'abord, c'est sûr qu'on apprend aussi beaucoup de ses élèves. Donc, je veux dire, on est toujours dans ce moment aussi présent où le fait de partager la musique, c'est un partage réciproque. Lorsqu'un élève vous montre quelque chose et que vous essayez vous-même de lui faire prendre conscience de certaines choses, ça vous amène à créer des connexions synaptiques ou artistiques que vous n'aviez pas prévues, insoupçonnées. C'est ça aussi qui crée la possibilité de aussi vous-même dans une introspection non délibérée, si je puis dire. Mmh. Et puis, et alors moi, j'enseigne aussi effectivement le piano, mais j'enseigne aussi l'improvisation, qui me semble être quelque chose d'extrêmement important. Ça a été mon parcours personnel, mais au-delà de ça, je trouve que souvent la pédagogie, encore de nos jours, en particulièrement en France, est toujours basée sur l'écrit, sur le texte. Mmh. C'est évidemment que nous devons respecter un texte, c'est ce qui nous est légué d'un compositeur, et c'est quelque chose d'extrêmement précieux pour nous. Mais au-delà de ça, c'est comment interpréter ce texte avec des indications notées par les auteurs, les compositeurs, qui sont parfois des indications qui sont beaucoup parfois très subtiles, parfois des choses à respecter d'une certaine manière. Ils ont écrit eux-mêmes dans leur correspondance, souvent, la manière dont ils souhaitaient qu'on interprète leurs œuvres ou ne souhaitaient pas le faire, et parfois ça peut paraître antinomique avec le texte, donc c'est respecter plus l'esprit, bien sûr, que le texte. Et en cela, l'improvisation permet de nous ramener à une forme de source, à une écoute première, intuitive, qu'on a perdu. C'est un petit peu comme si on apprenait à des enfants à savoir lire avant de savoir parler. Oui. Et donc j'essaye de remettre ça un petit peu au goût du jour, par des cours aussi bientôt à l'École normale de musique ou à Sciences Po, j'anime des ateliers, pour remettre la possibilité, d'abord en perspective aussi, une créativité, parce qu'on pense, quand on est pianiste, on doit absolument restituer quelque chose, comme si on restituait une œuvre de musée, alors que l'œuvre est éminemment présente, toujours, c'est nous qui la faisons revivre. Mmh. Et par l'intermédiaire de l'improvisation, cela permet aussi d'avoir une approche de sa pratique musicale et instrumentale totalement différente. Et donc, c'est pour moi quelque chose d'absolument indispensable.
Alors, est-ce que vous vous intéressez à la pédagogie des jeunes enfants, des jeunes musiciens ?
Oui, ça m'est arrivé notamment dans les 5 premières années de mon expérience pédagogique. Je ne le fais plus maintenant. Donc maintenant, j'ai plus des grands qui préparent des concours internationaux, etc. Mmh. Mais c'est absolument passionnant et j'admire beaucoup ceux qui ne font que ça.
Alors donc, à côté de ça, vous faites de la musique de chambre aussi, je pense ?
Oui, je fais de la musique de chambre, notamment avec Emmanuel Bertrand, violoncelliste, avec laquelle j'ai constitué un duo. Et on parcourt le répertoire depuis une vingtaine d'années maintenant, même un peu plus. Et on a enregistré plusieurs disques. Et c'est formidable pour nous, parce que la musique de chambre, souvent, telle qu'on l'entend, et telle qu'on l'entend dans tous les sens du terme, c'est souvent des gens, et ça m'arrive encore de le faire de temps en temps, mais c'est souvent des gens qui se rencontrent une fois, deux fois, et puis qui jouent, on se lance dans l'arène, en ayant finalement construit un peu comme un puzzle ce qu'on allait jouer, et de sorte qu'il n'y a pas forcément énormément de liberté qui intervient de cela, alors qu'avec Emmanuel, évidemment, comme nous partageons à la fois la scène et la ville, si je puis dire, eh bien nous avons à cœur vraiment de construire du répertoire, mais en, 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 en y revenant à chaque fois, chaque année, ou plusieurs années plus tard, de sorte que voilà, c'est vraiment comme une respiration commune et on a envie de creuser vraiment davantage et que ce que l'on partage au public soit le fruit vraiment de longues années à la fois de réflexion et bien sûr toujours en connexion avec l'instant présent dans le concert, évidemment.
Eh bien, on va vous écouter en compagnie d'Emmanuel Bertrand dans la vocalise de Rachmaninov. Thank you.
C'était la violoncelliste Emmanuelle Bertrand, le pianiste Pascal Amoyel dans la vocalise de Rachmaninoff.
Tempo classique sur RCN, Dominique Breda.
Alors Pascal Amoyel, une question qui me vient comme ça. Vous avez encore du temps pour continuer à travailler des répertoires nouveaux ?
Ah, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, quand on est amené à voyager pas mal et à faire des concerts, le revers de la médaille, c'est qu'on n'a plus trop le temps de travailler. Mais oui, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi, et aussi de construire des formes de concerts qui sont pas forcément usitées, parce que j'ai un immense respect, un immense amour pour Franz Liszt qui a créé le récital, évidemment. Mmh. J'ai même conçu un spectacle le jour où j'ai rencontré Franz Liszt autour de lui.
On va en parler.
Oui, et donc c'est la forme récitale est une forme que j'aime beaucoup, mais je trouve qu'elle a l'air d'être souvent la seule dépositaire d'un message qui soit artistique, spirituel, d'un compositeur, etc. Donc je me suis attelé à essayer, autant que faire se peut, d'ouvrir un petit peu ce concept du concert, du récital. Et d'ailleurs, le récital à l'époque de ces compositeurs, d'abord l'improvisation était omniprésente, on en parlait tout à l'heure. Mmh. Quand on allait écouter Mozart en concert, la plupart du temps on allait l'écouter improviser. Les gens n'auraient jamais laissé repartir Mozart sans avoir eu la possibilité d'entendre ce qu'il allait faire comme création dans l'instant, dans l'immédiat. Zerny disait « Quiconque n'a pas entendu Beethoven improviser ne peut pas avoir conscience de son génie, même en ayant entendu ses sonates ». Donc c'est dire à quel point c'était important. Et puis les concerts à l'époque, c'était souvent un pianiste qui venait jouer un mouvement de concerto avec un petit ensemble instrumental. Les gens avaient le droit d'applaudir entre les mouvements. Mmh. Ensuite, on avait un comédien qui venait de dire du Musset, une cantatrice qui venait de chanter ceci ou cela. C'était très libre, hein. C'était un petit peu finalement comme des concerts troubadours en fait. Hein. Il y avait, ouais. Donc j'aime bien cette idée-là de faire un petit peu de musique autrement, en tout cas en laissant libre cours la possibilité de passerelle aussi entre les arts, puisque tous ces arts proviennent d'une même source d'inspiration. Et ensuite c'est un petit peu le prisme. Comme un diamant, une facette de diamant qui fait que ça se transforme en musique ou en art visuel ou en art, etc. Donc c'est pour moi très important, et j'ai construit, d'ailleurs j'ai organisé un festival qui s'appelle Festival Notes d'automne, où se marie, se tisse ensemble à la fois la musique et le verbe sous toutes ses formes, qu'ils soient littéraire, poétique, spirituel, philosophique. Ce sont à chaque fois vraiment des moments de création inédits et inestimables.
Alors, si on en vient au spectacle que vous allez proposer à Nancy jeudi prochain, c'est également, en plus du pianiste, du compositeur, de l'improvisateur, le comédien, le conteur que nous allons rencontrer pour cette leçon de piano avec Chopin. Alors, vous avez une proximité particulière avec Chopin ?
Oui, alors de cœur d'abord, hein, même j'allais presque dire familial, puisque mon grand-père était polonais, était né à Lodz, ma grand-mère était aussi d'origine polonaise, donc mon grand-père me chantait régulièrement Chopin, quand je jouais la polonaise héroïque, il chantait à côté de moi, j'arrivais même plus à entendre ce que je jouais, et donc j'étais bercé dans l'œuvre de Chopin. Et ça m'a semblé vraiment, une idée intéressante de rendre hommage, entre guillemets, de montrer une facette de Chopin qui n'est pas forcément dans la connaissance de chacun, qui est le professeur. Parce qu'évidemment, on connaît Chopin compositeur, on ne connaît pas tellement Chopin improvisateur, on sait même qu'il était comédien, qu'il a voulu devenir comédien. Mais surtout, par rapport à ce spectacle, il était un très grand professeur, et quand il est arrivé à Paris, il s'est tout de suite, il n'aimait pas les concerts, il avait beaucoup le trac, il donnait très peu de concerts. Quand il faisait un concert, il voulait pas d'affiches, pas de programme et très peu de public. Finalement, il n'en a donné que très peu, peut-être une quinzaine, je ne sais plus, pas tout au plus. Mmh. Et par contre, il était un grand professeur très recherché. Et à l'époque du CNSM, je reviens un petit peu en arrière, moi je suis entré au conservatoire un petit peu dans l'enthousiasme justement de l'improvisation, et puis j'avais à cœur de proposer mes interprétations à mes professeurs. Et très souvent, et bien sûr à juste titre, on me disait « Oh là là, mais ça se joue pas du tout comme ça, il faut pas faire ça. » Et donc j'avais l'impression que je devais attendre les 20 interdits avant d'oser poser mon doigt sur une touche. Et je revenais D'accord. chez moi, et un peu dépité, et je me disais « Mais alors, où est la vérité ? Comment ?» Et voilà, j'ai failli arrêter la musique. C'était une période très difficile pour moi, le conservatoire. Et j'avais l'impression vraiment d'un carcan qui ne me permettait pas d'avoir de liberté du tout, contrairement à l'improvisation. Et j'ai découvert à ce moment-là des témoignages en fait de ses propres élèves qui sont des témoignages extraordinaires, ceux de Mathias, ceux de Mikouli, ceux de Filch, enfin des gens qui disaient voilà, qui ont noté les notes de cours. De ce que disait donc Chopin pendant les leçons. Ouais. Et parfois, en lisant ça, je me disais, mais en fait, j'ai l'impression de ne pas être tellement loin de ce qu'il voulait. Et il y a aussi une méthode, et c'est sur cette méthode que le spectacle est basé, une méthode de 12 feuillets qu'il a écrit toute sa vie en français. C'est un trésor inestimable, très peu connu, même de la plupart de mes collègues, où il donne des conseils aux jeunes pianistes et qui sont fantastiques. Il y a notamment une phrase dans les témoignages de ses élèves où il dit « Mais même si vous interprétez cette œuvre différemment de ce que je l'ai imaginé, ce sera peut-être mieux ainsi. Mmh. » Et c'est des phrases qui ouvrent un champ de perspective et qui détendent et qui rassurent. Extraordinaire, de même que dans la Polonaise héroïque où parfois on sait que Chopin était assez frêle, et etc. Il dit à un de ses élèves, si j'avais votre force, j'aurais fait éclater toutes les cordes du piano. Mmh. Et c'est des choses comme ça qui sont tellement extraordinaires et qui en même temps vont à l'encontre de certains clichés, de certains a priori qu'on peut avoir sur lui. Et donc à cette époque, je m'imaginais un petit peu avec une petite part de schizophrénie qu'il était à côté de moi et qu'il était assis à côté de moi et qui me disait fais ceci, fais cela, et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et donc j'ai voulu en faire un spectacle, donc c'est vraiment, bon, c'est pas du tout une conférence, hein, c'est vraiment un spectacle mmh. où je joue mon propre rôle, je joue le rôle de Chopin, et qui parle aussi de sa vie, bien entendu, et où il me donne une leçon sur sa première ballade, qui est une œuvre emblématique, hein, qui représente un petit peu, d'une certaine manière, peut-être, parce qu'il n'y a aucun titre dans les... Chopin était très privé, très discret, contrairement à Liszt, où il y a des titres pratiquement à toutes ses œuvres. Lui, il n'y a aucun titre à ses œuvres, donc on ne sait pas vraiment. On pense d'ailleurs que cette première ballade serait inspirée par un poème de Mickiewicz, hein, mais on n'en est pas sûr. Et donc, on a vraiment l'impression d'entendre toute cette révolte suite à l'Église, à l'exil qui fut le sien, de la Pologne à Paris, et où on a l'impression vraiment d'entendre aussi l'espoir et la mort de ses amis dont il a beaucoup souffert. Donc, c'est une sorte de musique à programme, d'une certaine manière. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète dans ce spectacle, qui donne à entendre à la fois toute sa vie, mais aussi et surtout la manière dont il souhaitait que ses élèves interprètent sa propre musique à travers à la fois sa technique, qui est une technique absolument révolutionnaire, mais aussi tous les signes qu'il indique, son agogique, son rubato, etc. Mmh.
Eh bien, écoutez, tout un programme, effectivement. Alors, le fait de venir jouer ce programme-là à Nancy, qui a des liens également très forts avec la Pologne, ça vous donne une saveur particulière ?
Vous pensez au roi de Pologne, sans doute, qui était
Stanislas.
Oui, bien sûr. C'est un petit peu comme revenir d'une certaine manière à dans une maison, dans une source. Et puis voilà, là, j'aime beaucoup jouer à Nancy. Cette salle est absolument magnifique. Et je remercie Hugues Leclerc pour son invitation et sa fidélité, puisque j'avais déjà eu l'occasion de jouer d'autres de mes spectacles, dont Looking for Beethoven, qui ressemble un petit peu, enfin ça n'a rien à voir évidemment, mais qui est dans la même veine, disons plus pédagogique. Autant Liszt ou Xiphras, et parle surtout de la vie de ses compositeurs, autant le Beethoven, Looking for Beethoven, qui est une enquête en fait autour de ses 32 sonates, une enquête que je reprendrai d'ailleurs au Théâtre Montparnasse pendant 3 mois l'année prochaine, entre septembre et décembre 2026, à l'approche de l'anniversaire de la mort de Beethoven en 2027. Et pour moi, c'est extraordinaire de pouvoir faire ces spectacles dans ce genre de salle aussi, de théâtre, et pour un public qui n'est pas forcément mélomane, soit qu'il l'est ou soit qu'il ne l'est pas du tout, et de pouvoir justement donner à entendre ces compositeurs, dont évidemment Beethoven, c'est un Himalaya, c'est ses sonates, mais voilà, je prends le pari à chaque fois de pouvoir faire en sorte que ces œuvres soient les plus accessibles possibles et d'en donner les clés pour essayer de se les approprier.
Eh bien, on va vous écouter dans Chopin, opus 9, numéro 2, mi bémol majeur. Thank you.
C'était donc l'opus 9 en mi bémol majeur de Chopin par Pascal Amoyel. Alors Pascal, comment nourrissez-vous votre art ?
Comment je nourris mon art ?
Oui.
Ça aussi, c'est une très belle question. Vous savez, tout participe à nourrir son art. C'est pas simplement en jouant, on vient d'écouter une nocturne que j'ai enregistrée il y a maintenant... comment dire, 20 ans, je suis en train de calculer pendant que je vous parle, refaire ce nocturne, le rejouer actuellement, ce n'est plus la même interprétation.
Bien sûr, oui.
C'est déjà d'essayer de toujours jouer sans passé, c'est-à-dire sans mémoire, c'est-à-dire revenir... tout ce que vous avez appris au moment où vous le faites, c'est intégré, mais ce n'est plus ça qui est montré, ce n'est pas démontré, ce n'est pas montré, c'est juste partager quelque chose qui nous est propre au moment où cela nous vient. C'est comme si l'amont faisait naître la musique, en fait. Mmh. Et donc il y a une sorte de réinterprétation, de réimprovisation de la musique telle qu'elle nous vient, de même que quand je vous parle, je ne choisis pas les mots qui me viennent, parce que si je choisissais les mots, ça ferait tout de suite, mon attention serait sur ces mots-là et sur l'objet, sur un objectif qui ne serait pas celui du sens. Donc c'est vraiment le sens qui crée le son et non pas le son qui fait sens, contrairement d'ailleurs à certaines approches de musique contemporaine où on a l'impression vraiment que c'est, il faut trouver absolument la liberté, la nouveauté, pas la liberté justement, que c'est la nouveauté qui va créer, ou même dans les musiques actuelles, on essaie de trouver un nouveau son, etc. Mais pourquoi, si ça provient pas d'un caractère, d'un sentiment, de quelque chose de plus profond, ça n'a absolument, c'est nul et non avenu, enfin c'est insipide. Et donc pour cela, c'est toujours vraiment une vraie introspection. C'est une introspection, je dirais presque spirituelle, une auto-observation. C'est presque une démarche apophatique, dans le sens où on ce n'est pas tellement faire quelque chose, mais plutôt ne pas faire quelque chose. C'est-à-dire, à chaque fois, on se dit, j'ai fait ça, mais ça n'apporte rien, c'est inutile, etc. Et du coup, on le dépose. Et à force de déposer tellement de choses, il finit par rester l'essentiel, qui est absolument inexplicable, qui est très mystérieux. C'est presque « je ne joue pas, mais ça joue », comme disait le pianiste Edwin Fischer. On a l'impression d'être joué, d'une certaine manière. Mahler disait « je ne compose pas, je suis composé ». C'est un peu ça. Donc finalement, plus on retire, et plus on est dans la justesse. Et ne pas hésiter pour cela aussi à... Je parlais tout à l'heure des nombreuses sources d'inspiration, mais de lire beaucoup, de se détacher justement uniquement de la volonté d'une restitution musicale, comme si on savait absolument ce que... Par rapport à des écrits qu'on laissait des compositeurs, comme si on savait exactement ce qu'ils voulaient. Non, on ne saura jamais. Et par contre, il y a une vérité de l'instant qui fait que... Lorsque les gens vous écoutent parfois, ils sortent aussi d'eux-mêmes. On a l'impression qu'un public qui vous écoute, 500 personnes qui vous écoutent, c'est un seul regard en fait. Parfois quand les gens viennent me dire « j'ai oublié mes soucis pendant que vous jouiez », pour moi c'est une dimension plus spirituelle que ce qu'on peut croire, parce que c'est justement sortir d'une forme d'ego et être juste simple regard qui vous simple écoute. Et se retirer du personnage que l'on est. Et ça, en cela, l'artiste est un peu aux premières loges de cette possibilité de voir justement qu'il n'est qu'un instrument et qu'un canal.
Et le fait de jouer parfois des instruments historiques, des pianos historiques, ça contribue à nourrir ?
Oui, absolument. J'ai eu l'occasion de faire des tournées avec un Pleyel 1837, avec un Erard 1880, enfin jouer ces instruments.
On comprend mieux les choses.
On comprend mieux. Par exemple, son notion de pédale, Chopin est un des seuls compositeurs à avoir noté, à avoir pris le soin de jouer toutes ses pédales. Vous vous rendez compte, tout est noté. Et donc ce serait vraiment... un manque de respect total de dire mais moi je m'en fiche, je fais comme la pédale comme je le sens. Mmh. Non, s'il l'a écrit, c'est qu'il voulait absolument. Simplement, le problème, c'est que dans nos pianos modernes, on ne peut pas respecter les pédales telles qu'il les a écrites. Parce que si on écoute justement un piano, les pléiels, par exemple, tels qu'il, c'était les instruments qu'il préférait de l'époque de 1800, 1830-40, etc., on remarque qu'il y a par exemple une résonance naturelle qu'on n'a pas sur nos instruments modernes. Donc ça veut dire que lorsqu'il indique de jouer plus de pédales ou moins de pédales, si on les respecte de manière servile sur nos pianos modernes, on ne va pas être dans l'esprit, je parlais d'esprit du texte, donc parfois il y a des moments où on ne doit pas respecter ce qu'il a écrit, mais en ayant pris conscience de comment ça sonnait tel que, par rapport à ses propres instruments, et donc d'adapter. Et donc, voilà, après il y a aussi l'exemple inverse, hein, on parle souvent de Bach, jouer Bach au piano, comment jouer les œuvres orchestrales de Haydn. On sait qu'Haydn disait « Je n'ai eu que tant d'interprètes pour jouer mes pièces, si je pouvais avoir un orchestre entier. » Bach correspondait beaucoup avec Silbermann, qui lui disait « Mais ici, il faudrait changer ces sonorités. » Les compositeurs eux-mêmes ont travaillé beaucoup avec les compositeurs. C'est ce qui a fait que la facture de l'instrument s'est adaptée aussi à leur convenance. Je pense notamment au double échappement avec Erhard, le travail entre Liszt et Erhard, enfin, etc. C'est des moments de grand avancement sonore, mais toujours dans une perspective justement de pouvoir faire en sorte que le piano, finalement, qui est un instrument basique quand on y pense, hein, c'est un instrument à percussion, vous avez un marteau qui vient frapper une corde, et franchement, le son du piano, c'est pas terrible hein, quand on y pense. Par contre, quand vous essayez de le faire changer, quand vous essayez, et ça c'est dans une partie du spectacle, parce que Chopin lui-même le disait, quand vous essayez de faire chanter le piano, de faire oublier c'est l'accent du marteau sur la corde, quand vous essayez de lier les notes de telle manière à ce qu'il n'y ait pas d'attaque entre les deux, ou d'imiter le piano comme s'il était imiter les instruments de l'orchestre ou même de son insoupçonné, alors là le piano devient intéressant et la vie prend forme de cet instrument.
On va vous écouter dans un nocturne de Frédéric Chopin. Thank you.
C'était sous les doigts de Pascal Amoyel le nocturne en ut dièse mineur opus posthume de Frédéric Chopin.
RCN, Tempo Classique, Dominique Breda.
Alors Pascal Amoyel, on vous écouterait des heures, mais enfin, il faudra venir vous écouter ce jeudi.
C'est gentil.
Ce jeudi, salle Poirel à 20h, dans le cadre des Nancyphonies organisées par notre ami Hugues Leclerc. Alors, pour terminer, je voudrais qu'on parle un petit peu de magie et de mentalisme. Vous pratiquez vous-même ou alors
Ah oui, je pratique moi-même. Je suis passionné de magie, de mentalisme en particulier. J'ai créé un cercle de mentalistes en 2005 qui réunit parmi les meilleurs mentalistes de France. Donc, je ne fais pas partie. Hein. Je suis un amateur. Mais enfin, peut-être un amateur éclairé quand même, parce que j'en ai fait un spectacle. Hein. J'ai osé faire ça. Ça s'appelait L'étrange concert. Parce qu'il me semble que les passerelles entre la magie et la musique sont plus qu'étroites. Enfin, c'était un spectacle sur l'émerveillement, le thème de l'émerveillement. Mmh. Et ça a été pour moi 3 ans de travail. De toute façon, chaque spectacle demande à peu près 3 ans de travail. C'est toujours très long et fastidieux aussi, parce que je ne suis pas écrivain, donc il faut que j'écrive aussi, et puis je retire beaucoup. Et souvent, mes spectacles, au début, ils durent 4h30, et je me dis que je ne vais peut-être pas
insister
au
oui.
public. Et c'est pas facile de supprimer. Oui. Mais voilà, c'était un spectacle interactif avec le public, où je demande, par exemple... au public voilà, de venir. Je leur fais des portraits musicaux et il y a un très joli effet à la fin. Alors, quand je vais le dire comme ça, les gens vont me prendre pour un fou, ce que je suis peut-être du reste. Mais enfin, en tout cas, ce n'est pas du tout... je n'ai aucun complice. La personne que je fais venir sur scène n'est absolument pas complice. Mmh. Et je n'ai aucun don paranormal, évidemment. C'est vraiment juste de la magie. Hein. C'est des choses qui sont beaucoup, beaucoup travaillées. De venir avec je fais venir une personne, je lui fais lire, et le public le lit aussi, des panneaux avec des mots à connotation positive, comme amour, paix, joie, et négatif, comme guerre, conflit, violence. Et puis je lui explique que la musique nous fait percevoir le monde différemment. Une fois qu'on l'a entendu, on n'est plus le même, et je pense que c'est vraiment vrai, j'y crois beaucoup, la fameuse catharsis d'Aristote, en quelque sorte. Mmh. Et donc je joue à ce moment-là le clair de lune de Debussy. Je demande à la personne de mettre ses mains sur la table d'harmonie. C'est un joli moment avec une jolie lumière. Puis après, je lui demande ce qu'il a ressenti. Souvent, il me dit que c'était comme un voyage, qu'il a ressenti aussi les vibrations de l'instrument. Mmh. Et puis je lui rappelle ensuite la première phrase, que la musique peut nous faire percevoir le monde différemment. Et je lui fais lire les mots. Et donc, il redit amour, paix, joie, et quand vient le premier mot négatif, ben, il n'arrive plus à le dire. Ah oui. Et il est bloqué, comme un peu hypnotisé, vous savez, comme si ses lèvres ne pouvaient plus bouger. Et donc, voilà, c'est un peu la symbolique de la musique qui nous relie et qui est en lien avec la, la fraternité et l'amour dont je parlais tout à l'heure.
Eh bien, écoutez, on va rester sur ces mots très positifs. Merci Pascal pour ce très agréable moment passé en votre compagnie. On vous retrouve jeudi prochain à la salle Poirel à 20h. Merci à Thomas pour la technique et à mardi prochain.